Bien, tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs de ce colloque et les commissaires d'exposition d'avoir suscité un nouveau goût pour les jouets, en tout cas un nouveau regard, et avoir invité les conservateurs des collections à se positionner sur les collections qu'ils pouvaient avoir dans leur fonds. Au musée de l'armée, nous avons fait l'exercice et nous avons entendu ce matin combien étaient riches les collections nationales de plusieurs milliers d'objets. Alors, le musée de l'armée, il est héritier des collections du musée d'artillerie et de celles du musée historique de l'armée. Il compte environ 500 000 objets, dont la plupart sont des armes et armures qui ont été rassemblées au fil des ans par des conservateurs soucieux de témoigner de l'histoire militaire de la France. Mais in fine, nous n'avons que très peu d'objets qui ressortent de la catégorie jouets dans les collections du musée de l'armée. Pendant de très nombreuses années, les acquisitions se sont orientées presque exclusivement vers les armes ou les souvenirs de personnages illustres de notre passé. Et dans ce contexte très particulier, la place accordée aux collections de jouets est infime, car probablement très éloignée des préoccupations d'alors. En effet, si l'on se réfère à la définition du dictionnaire, et comme nous le rappelait M. Brougère ce matin, le jouet est un objet dont les enfants se servent pour jouer. Or, l'importance accordée à l'enfant dans notre société est un phénomène relativement récent et qui n'a pas trouvé d'écho immédiat dans les musées militaires. De fait, ce qui se rapporte aujourd'hui au monde de l'enfance est quasiment peu représenté dans les collections de militaria, et celles du musée de l'armée ne font pas exception. Contrairement aux idées reçues, les jouets sont les grands absents de notre fonds, et tout particulièrement de notre fonds de figurines, qui est riche d'environ 150 000 numéros. Ce fonds est essentiellement composé de figurines de cartes qui sont précises et documentaires et qui reflètent essentiellement le goût des collectionneurs de militaria plus qu'ils ne témoignent de pratiques enfantines. In fine, ce sont seulement quelques dizaines de jouets qui figurent sur les inventaires du musée de l'armée et pour les plus anciens d'entre eux, c'est probablement leur provenance illustre ou leur valeur esthétique qui ont décidé de leur entrer dans les collections. Ce n'est que depuis la fin du XXe siècle et le début des années 2000 que le musée de l'armée a entrepris sa mutation en musée de société. Le fameux plan Athéna de rénovation d'établissement a impliqué un nouveau regard sur les collections. Et donc, ce musée de l'armée qui se transforme en musée de la société militaire a entrepris une nouvelle politique d'acquisition, plus ouverte, sur les objets de la vie quotidienne, et de quelques jouets sont venus enrichir notre fonds, encore trop modeste aujourd'hui. Alors ces jouets, quels sont-ils? Alors sans surprise, lorsqu'on en regarde notre fonds, ce sont pour la majeure partie d'entre eux des jouets d'apprentissage. Le plus connu, présenté d'ailleurs dans l'exposition, est probablement l'armure miniature, en fer gravé provenant de la collection Pauillac. Cette pièce correspond à la réduction d'une armure allemande destinée à la joute qui se pratiquait au début du XVIe siècle sous l'impulsion de Maximilien Ier. Un système assez complexe de petites poulies mécaniques permettait d'actionner et d'opposer sur une table les figurines des petits jouteurs, ce qui permettait de simuler les scènes de joute. Cet objet est à rapprocher d'une gravure d'Hans Buchmeier, qui est extrait du Weisskönig, qui est un recueil commandité par l'empereur Maximilien au début du XVIe siècle. Et cette gravure montre l'empereur Charles Quint et son frère Ferdinand adolescent en train de jouer à la joute avec ce type d'armure miniature. D'après Charles Butin, la pièce du musée de l'armée pourrait être celle figurée sur la gravure et formerait paire avec celle qui est conservée au musée de Munich, qui est complète, c'est-à-dire que le petit mannequin qui supporte l'armure se trouve encore sur son cheval de joute. Vous la voyez à droite en version démontée. Donc c'est véritablement de jouets qu'il s'agit, qu'il faut assembler, que l'on peut démonter et que l'on fait s'affronter ensuite, comme vous le voyez ici sur la gravure, où l'on a les deux jouteurs en train de s'exercer, en tout cas de s'affronter. De telles figurines ont été réalisées vraiment en dehors de toute référence d'échelle, et elles subsistent encore dans les grandes collections publiques d'armures. On a des petits jouteurs en laiton, datés des années 1500, qui sont conservés dans la Waffelsammlung à Vienne. Le musée de l'armée, lui, possède une collection de 8 petites armures miniatures destinées à la joute. Ici, voilà, les voilà rassemblés sur cette image, un peu ancienne. Seuls les jouets sont les petites armures au premier plan. Vous reconnaissez ici la pièce Pauillac. Dans le même registre de jouets d'apprentissage figurent bien sûr des jouets dits guerriers. Le musée de l'armée conserve une série de 9 petits canons réalisés en 1663 à Nuremberg par le fondeur Herold et offerts au grand dauphin Louis à l'occasion de sa naissance, 1661. Alors un tel présent peut paraître curieux pour un enfant âgé d'à peine 2 ans. Cependant, ces reproductions fidèles de pièces d'artillerie ont joué un rôle très important dans l'apprentissage des jeunes princes. Petits soldats et canons miniatures sont un premier pas vers le commandement des hommes et la conduite de grandes manœuvres. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit canon est vraiment une réduction des matériels en service à la même époque, puisque nous avons des canons en vraie grandeur dans les collections qui reprennent exactement ce type de matériel, avec un tube en bronze sur un affût à rouage, l'ensemble étant ici attelé à un avant-train permettant la traction hippomobile. Sur le premier renfort se trouvent ici les armoiries qui permettent d'attribuer et la titulature du fondeur, la date de fabrication de la pièce. Cette pièce est particulièrement bien représentée et nous avons donc plusieurs calibres de ces canons, comme une véritable petite armée, qui ont été réalisés et offerts au roi. Le musée de l'armée possède également un petit canon de belle facture qui, d'après nos inventaires, aurait appartenu à un enfant de la famille royale. Ce canon présente les caractéristiques d'un canon de campagne de 12. Classique français, c'est un canon qui est en service dans l'artillerie entre 1666 et 1764. La pièce présente un décor très élégant. Les hanches sont en forme de dauphin, comme cela est réglementé dans l'ordonnance de l'artillerie française. Sur le premier renfort ici, on voit la devise du roi Louis XIV, « Nec pluribus impar » et le soleil rayonnant, une partie de la devise. L'ensemble était probablement attelé avec des petits chevaux qui aujourd'hui ont disparu. Mais le plus connu de tous ces jouets est certainement le petit canon dit de Louis XVII. Alors cette pièce, c'est une pièce étonnante, touchante, c'est un tout petit objet, hein, il fait une dizaine de centimètres de long, il tient dans une main. Il est entré au musée en 1909, mais il faisait autrefois partie des collections du musée des souverains, et le catalogue de 1866 précisait « Petit canon ayant servi de jouet au dauphin, fils de Louis XVI. Il est de cuivre doré avec des roues d'acier. Il a été donné au musée des souverains par M. Miro. » Alors, les ventes révolutionnaires de 1793 ont souvent permis à de tels objets d'être sauvés de la destruction grâce à leur achat par des particuliers. Cet objet n'est pas la copie parfaite d'une pièce d'artillerie, mais sa qualité d'exécution et sa richesse décorative le rapprochent d'un travail d'orfèvre. Et la présence d'un écu, ici, sur les flasques de l'avant-train, portant une figure en forme de trèfle, nous invite à rapprocher cette pièce de l'œuvre de l'orfèvre Michelmann, qui a été mentionnée pour la première fois à Augsbourg en 1589 et dont l'atelier se trouvait à Nuremberg à la fin du XVIe siècle et jusqu'en 1630. Plusieurs canons miniatures, vraiment très proches de celui-ci, sont conservés en Angleterre dans la collection Rothschild au Waddesdon Manor, et un autre se trouve dans les collections canadiennes de la Thompson Art Gallery dans l'Ontario. Cette pièce qui à mon sens date plutôt du début du XVIIe siècle, témoigne de la qualité des nombreux modèles d'artillerie avec lesquels pouvait jouer le futur Louis XIII. À plusieurs reprises, Jean Hérouard, qui était le médecin du dauphin, précise dans son journal de l'intérêt du jeune prince pour ses canons, qu'il chargeait de poudre et de papier pour les faire tirer. Et lorsqu'on examine la pièce du musée de l'armée, on voit des traces d'usure au niveau de la lumière, qui est le petit canal qui permet de mettre à feu le canon, et des traces d'usure dans l'âme de la pièce, qui témoignent de son utilisation. C'était le cas de la plupart des petits canons des collections du musée de l'armée, d'ailleurs. Selon Madame Joannis, la transmission de ces jouets de roi à dauphin est une tradition que l'on retrouve avec Louis XIV, qui lègue aux dauphins des bataillons d'infanterie mus par ressort. Il n'est donc pas impossible que cette pièce soit passée entre les mains de plusieurs dauphins de France, et ce, jusqu'à Louis XVII. Alors, le petit canon que je vous présente maintenant est une pièce qui pose beaucoup de questions. Alors, cela représente un petit canon de campagne du système Gribeauval, qui est un grand système qui a réformé l'artillerie française au milieu du XVIIIe siècle. On ne sait pas trop le classer, ce petit modèle. Est-ce qu'il ressort de la catégorie jouet, ou est-ce que c'est un objet de vitrine, un objet de prouesse technique? En tout cas, c'est un petit canon réalisé par l'orfèvre d'Auvillande et qui a appartenu au roi de Rome. Il est en ivoire pour la partie support et avant-train. Donc l'avant-train est la partie qui vient se fixer à l'arrière du canon et grâce à laquelle on pouvait atteler les chevaux de manière à pouvoir déplacer la pièce. Le canon lui-même est en vermeil, incrusté de petits strass, qui était quelque chose de tout à fait novateur pour l'époque, d'Auvillande étant l'inventeur de ce système, de ces nouvelles pierres qui imitent les pierres précieuses. Donc ce petit modèle d'artillerie est tantôt classé dans la rubrique jouet, tantôt dans la rubrique présent honorifique. C'est vrai que la frontière entre les deux est un petit peu difficile à définir, mais c'est vrai que c'est une pièce tout à fait exceptionnelle de nos collections. D'autres petits canons, plus modestes, reflètent bien le goût pour ces objets militaires. Ici, on a un petit canon artisanal du modèle 1859, donc de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec son avant-train et son caisson qui s'ouvrent et que l'on peut manipuler, que l'on peut effectivement accrocher. On est moins dans une richesse d'exécution, mais là encore, le trou de lumière et l'âme montrent que ce petit canon a probablement tiré, été utilisé avec des toutes petites charges de poudre. Et c'est un peu ce type de pièce que l'on retrouve sur cette image, cette représentation donc, de la famille Sardou, par Auguste Brély, qui fait partie des collections du musée Schoeffer. Et ce qui est troublant dans ce tableau, c'est qu'au premier plan, c'est la petite fille qui tire le canon. Donc jouer pour les garçons, jouer pour les filles. Alors est-ce que c'est un petit clin d'œil de l'artiste qui a fait une surinterprétation de cette... Est-ce que vraiment les petites filles chippaient les jouets de leurs frères? Je ne suis pas suffisamment spécialiste, en tout cas dans ce domaine, mais ce tableau d'un intérieur bourgeois de la fin du XIXe siècle met bien en situation ce type de petit modèle qui était en usage à cette période-là. Alors, parmi les jouets, effectivement, des collections du musée de l'armée, les figurines, je vous l'ai dit, occupent une place importante par le nombre, mais la partie qui consacre les jouets est toute petite, la plupart de nos figurines étant des figurines de cartes destinées à des collectionneurs. Nous n'avons que très peu de jouets au sens strict du terme. La plus connue est la figurine de Mamelouk, que vous voyez ici à l'écran, qui est appartenue elle aussi au roi de Rome. Et c'est un petit sujet en bois peint qui est intéressant et qui est touchant de par sa facture. Une petite étiquette ici sur le socle nous renseigne. Il est écrit sur cette étiquette « Donné par le roi de Rome à son ami Desroches, fils du lieutenant Desroches, tué à Waterloo. » Alors d'un caractère un petit peu moins prestigieux, mais probablement tout aussi ludique. Voici des figurines qui viennent tout juste d'entrer dans nos collections. Enfin, quand je dis tout juste, c'est probablement, j'espère, le cas, puisqu'ils ont été présentés ce matin à la commission d'acquisition des musées de la Défense. C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans nos collections. Il s'agit de figurines réalisées par la société Mocarex. Alors, la société Mocarex est une société de fabricants de café qui offrait ces petites figurines en cadeau publicitaire pour, j'imagine, fidéliser le consommateur. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces figurines Mocarex représentent des soldats en uniforme de la Première Guerre mondiale. Alors, avec la boîte, donc... Les recherches en cours n'ont pas précisé quelle était la quantité de café à acheter pour avoir les figurines, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est tout à fait nouveau pour le musée d'acquérir ce type de collection très intéressante, où là, il s'agit vraiment de petites figurines destinées au jeu. Alors, ce qui nous frappe quand on regarde nos collections de jouets, c'est que dans les collections du musée de l'armée, le peu de jouets que nous avons rassemblés sont soit des objets ayant une provenance prestigieuse, venant du musée des souverains, comme nous venons de le voir, soit des objets peut-être plus anodins, mais qui ont une destination tout à fait particulière. Alors c'est le cas de ce petit canon, qui a été fabriqué par la firme Jouet Français, donc il porte ici l'inscription sur le pare-balles en tôle. C'est un canon, alors pour les passionnés d'artillerie, c'est un canon de 155 mm Schneider qui a été développé en France à la fin du 19e siècle, en 1881, mais qui a été fortement utilisé au moment de la Première Guerre mondiale pour justement pallier le manque d'artillerie lourde longue portée de l'armée française à cette date. Donc ce canon, initialement, a été destiné aux enfants, c'est un jouet au jeu, mais il a été détourné en quelque sorte, puisqu'il a servi de support à des recherches militaires. Les débuts de la Première Guerre mondiale ont mis en avant le rôle stratégique du camouflage, et cela va susciter de nombreuses études pour les tenues des soldats et pour leur matériel. Donc ce jouet, en fait, a été réalisé par Jean-Baptiste Gene Corbin, qui travaillait à Toul au début de la Première Guerre mondiale et était chargé faisait partie de cette mission de recherche pour définir les meilleures couleurs de camouflage destinées aux pièces d'artillerie. Donc Corbin a réutilisé un petit jouet, enfin plusieurs de reste, puisque nous en avons au moins deux, voilà, dans les collections, celui-ci de facture plus artisanale, pour voir de quelle façon il fallait au mieux camoufler les matériels d'artillerie. Pourquoi cette nécessité du camouflage à ce moment-là, précisément, et pas plus tôt ? Eh bien, parce qu'il y a eu une révolution dans l'histoire de l'artillerie à cette époque-là. C'est que jusqu'à la fin du XIXe siècle, les artilleurs utilisaient de la poudre noire, qui était connue pour dégager beaucoup de fumée et beaucoup de crasse. Et l'ingénieur Vieille, en 1889, a mis au point une nouvelle poudre, un coton poudre, dite poudre cellulosique ou poudre B, qui ne dégage plus de crasse au moment de son inflammation. Donc tout d'un coup, le champ de bataille devient clair. Donc tout d'un coup, alors cela a impliqué beaucoup de changements, hein, donc notamment dans les équipements, les matériels. Au cours de la guerre, les matériels, les équipements ont évolué. Et ils ont changé, notamment autour de l'année 16. Et les premières pièces ont commencé effectivement à être... On a réfléchi à cette question du camouflage qui sera véritablement mis en service au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, sur l'histoire des jouets comme ça qui ont une autre destination, j'attire votre attention sur une pièce qui ne fait pas partie des collections du musée de l'armée. Pas encore. Mais... il faut attendre, comme ça on fait des petits pas. La prochaine commission, courage. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ce casque de Dark Vador, vous l'avez reconnu, donc c'est une panoplie que je vous présente, qui est donc réalisée à la suite du personnage de fiction créé par George Lucas et sa fameuse série Star Wars. Ce qui est intéressant, c'est on peut s'interroger, alors des spécialistes se sont interrogés sur l'origine de ce casque. Il y a deux versions, la version Durer, parce qu'on a effectivement dans une gravure de Durer un casque un petit peu similaire, mais la tradition que j'ai pu retrouver semble dire que ce casque, enfin pour les spécialistes de Dark Vador, je ne le suis pas, mais il semblerait que le casque de Dark Vador soit directement inspiré, ça, du casque allemand Deuxième Guerre mondiale, tel qu'il vous est présenté là. Et j'adhère assez bien à cette idée. Ce qui est très intéressant, par contre, peut-être ne le savez-vous pas, c'est que le casque de Dark Vador, en fait, il a été réalisé et il a équipé une armée. Au moment de la Deuxième Guerre du Golfe, en 2001, le colonel de la Garde nationale, qui est le propre fils de Saddam Hussein, a fait équiper ses troupes de casques qui sont la réplique du casque de Dark Vador. Donc, vous avez ici cette pièce qui fait partie des collections britanniques, puisque nos collègues britanniques ont fait l'acquisition de cette pièce qui est présentée aujourd'hui au Royal Armouries à Leeds. Et il présente d'ailleurs côte à côte le casque de Panoply et le casque donc de la garde de Saddam Hussein. Donc les soldats couverts de ce casque, on peut dire que quelquefois la réalité dépasse la fiction. Alors, on ne s'est pas consulté avec Madame Monroe tout à l'heure, mais au-delà des objets détournés, le musée de l'armée conserve beaucoup d'objets qui évoquent le monde de l'enfance, mais qui en réalité ne sont pas véritablement des jouets. Et en paraphrasant Magritte, on peut dire non, non, ceci n'est pas un jouet. Le petit modèle que vous avez sous vos yeux fait partie des collections du musée de l'armée. C'est un petit modèle de chariot porte-corps d'armure et d'arquebuse à crocs. L'arquebuse à crocs étant le plus petit des calibres de l'ordonnance des calibres de France qui a été adoptée en France dans les années 1550. Et donc pour déplacer ces arquebuses qui étaient très lourdes, c'était des fusils de rempart, on utilisait des petites charrettes et qui manifestement servaient aussi au transport d'armure qui elle-même était très lourde. Ce petit modèle a été réalisé au XIXe siècle, par les ateliers du musée d'artillerie, pour illustrer ce que pouvaient être les collections d'artillerie de la Renaissance dans le cadre de la galerie d'artillerie du château de Pierrefonds. Non, ceci n'est pas un jouet. C'est vrai que les armures ayant appartenu au roi de France étaient portées par les jeunes princes au moment d'apparat. L'armure ne se portait pas uniquement pour faire la guerre, l'armure était portée également au moment des jeux, donc on a vu tout à l'heure les joutes, les tournois, mais l'armure était aussi portée au moment des parades. Donc les jeunes princes, alors ici vous avez l'armure de Louis XIII enfant, nous avons une affection tout à fait particulière pour Louis XIII au musée de l'armée parce que c'est le dernier roi de France à avoir porté l'armure. Et nous avons la chance de pouvoir conserver dans nos collections la quasi-totalité des armures depuis sa plus tendre enfance jusqu'à sa taille adulte. Ces armures étaient faites pour que les jeunes princes portent l'armure au moment des grandes fêtes. Et donc c'était des armures d'apparat. Elles sont réalisées comme les armures d'adultes avec une finesse dans des aciers gravés. Dans le même esprit, le sabre du roi de Rome. Le roi de Rome, s'il avait joué, il n'aurait pas utilisé ce sabre, parce que la première chose que l'on dit à un enfant vis-à-vis d'une arme, c'est « attention ». On le prémunit, c'est très dangereux, on ne joue pas avec des armes. Ce sont des sabres qui venaient compléter sa tenue de grenadier de la garde impériale, puisque effectivement, il portait une tenue qui était elle aussi une tenue d'apparat. Lorsqu'il jouait, il ne portait pas cette tenue-là. Parmi les jouets qui n'en sont pas, eh bien les voilà les figurines de cartes réalisées à Strasbourg par les familles Wurtz, notamment entre 1825 et 1855, qui constituent la quasi-totalité de notre fonds de figurines. Ce sont des figurines faites pour les collectionneurs, par des collectionneurs, qui sont vraiment un outil documentaire exceptionnel, l'enjeu étant de reconstituer de façon la plus précise possible les armées en présence. Dans le même esprit, des petites poupées, réalisé par Bernard Franck, qui a constitué pendant une vingtaine d'années une collection d'une centaine de petites poupées qui figurent l'évolution du costume militaire français des origines à nos jours. Voici un autre petit poilu. Et Toto, Est-ce que Toto est un objet ? Est-ce que Toto est un jouet ? Alors, il semblerait qu'il ait été réalisé à partir d'un jouet. Il s'agit d'une petite figurine offerte au maréchal des logis Danton, qui était aussi photographe, par sa fiancée lors de sa mobilisation en août 14. Et le maréchal des logis Danton, qui était artilleur au 44e régiment d'artillerie, a emporté Toto, qui a fait toute sa campagne. Et d'ailleurs, il a été enrôlé lui-même au 44e. Vous voyez, il porte sur son képi le numéro du régiment. Et Toto a été photographié par Danton. Donc Toto à l'entrée de la tranchée, Toto en embuscade et Toto sur le canon. Alors, est-ce que Toto est toujours un jouet, ou plutôt Toto est devenu une mascotte ? Il a vécu la guerre et c'est à ce titre qu'il est entré dans les collections du musée de l'armée. D'autres petits modèles qui ne sont pas des jouets, des canons prototypes, des canons du système Gribeauval qui ont été réalisés pour faire valider ce nouveau système auprès des directeurs de l'artillerie, qui ressemblent à des jouets mais qui n'en sont pas. Des présents honorifiques, le plus célèbre étant celui offert par le Parlement de Franche-Comté à Louis XIV, qui est une pièce d'orfèvrerie tout à fait exceptionnelle, où on voit le roi en majesté, et in fine des collections dans le musée de l'armée. Donc, grâce à ce colloque et à cette exposition, les conservateurs du musée de l'armée se posent aujourd'hui la question de savoir s'il faut acquérir ce type de jouet. Est-ce que c'est au musée de l'armée de collectionner ce type de petites figurines, ou est-ce que c'est plutôt le rôle de grandes institutions qui ont vocation à conserver des jouets ? Voilà, le débat est ouvert. Pardon, j'étais un peu longue. En tout cas, je vous remercie de votre attention.